5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain.
Orion, les chemins de l'espace, présenté par Gérard Rivet et Jean-Michel Viali.
Décollage.
Bonjour Jean-Michel.
Bonjour Gérard.
Et bonjour à tous, merci de votre fidélité, vous suivez régulièrement notre émission Orion Chemin de l'Espace, nous vous rappelons que c'est le groupe Orion, une association d'astronomie du Velay, qui vous propose cette émission et qui vous propose une actualité du ciel, de l'espace, de la conquête spatiale avec vous Jean-Michel. Donc ce mois-ci, nous allons évoquer trois sujets importants. D'abord, la Guyane connaît des événements. On n'est pas là pour commenter les événements, mais quand même, il y a des conséquences sur le centre spatial de Guyane. Nous parlerons également des lancements du mois de mars, début avril. Et puis, un mot, bien sûr, sur la vie à bord de l'ISS et puis les projets en cours pour desservir cette ISS. Alors, la Guyane connaît effectivement des événements. Le centre de Kourou a été occupé le 4 et le 5 avril. C'est une occupation, j'allais dire, déterminée, mais calme et pacifique.
Pacifique. Alors, ce n'est pas le centre spatial qui a été occupé. Simplement, 30 personnes ont été reçues sur le centre spatial. Le gros de la foule est resté à l'extérieur, heureusement, parce que c'est un site très sécurisé. Voilà. Mais bon, nous sommes là pour parler surtout des conséquences sur le spatial.
Voilà, les conséquences. Et puis, on dira un mot aussi sur l'organisation de ce site, qui effectivement est un site très, très sécurisé. Donc, les conséquences, finalement, sur l'actualité.
Alors, lancement de la fusée Ariane, qui était prévu fin mars. Donc, vol Ariane 236. Donc, retardé. Donc, ce qui veut dire, c'est qu'il y a toute une procédure avant le lancement qui consiste à la mise sous satellite, sous la coiffe, des satellites qui sont prévus d'être lancés. Ensuite, le transfert au pas de tir. Ensuite, le remplissage des ergols, des batteries. Donc, une procédure minutée chronologiquement en jours et en heures avant le lancement final.
Voilà, ça veut donc dire au passage qu'on ne coupe pas le contact, on le remet prêt à repartir.
Il y a notamment des batteries qui servent au lancement, qui servent à la maintenance des satellites, qui sont des batteries qui n'ont pas un temps de charge très long, donc notamment qui ont dû être enlevées et qui seront remplacées au moment où nous lancerons ces satellites.
Voilà. Donc, 236e tir, c'est ça?
Voilà, c'est qualifié vol Ariane 236. Donc, tous les lancements qui ont eu lieu depuis le début de la conquête française, on va dire.
Voilà, donc c'est un bon indicateur de l'activité intense du site de Kourou.
Alors, ça retarde le 236, mais le 237 aussi.
Alors, le 237 qui était prévu à
qui était prévu en avril,
était imminent en fait.
Qui était tout de suite après le 235, avril-mai. Alors, on dit toujours, on a une date qui est prévue pour un lancement, mais cette date est conditionnée par le fait d'avoir tous les éléments, donc les satellites à bon port.
La météo peut-être?
La météo est un élément très très important. On dit souvent qu'il nous faut une fenêtre de tir et il faut que cette fenêtre soit propice.
Donc la maintenance qui retarde, il faut réinitialiser un petit peu tout ça. La fenêtre est bonne, elle n'est pas bonne. Et donc effectivement, on voit effectivement que ça dérape.
Tout ça aussi, il y a les clients, puisque pour Ariane est un lanceur qui sert non seulement à l'Europe, mais à des clients potentiels.
C'est un transporteur
notamment. Donc un des satellites qui s'appelait CoreaSat, qui était en attente, donc est toujours en attente. Donc des satellites qui sont acheminés, suivant où ils sont construits, soit à Toulouse, donc par Airbus Space Dynamics Defense, ou par Thales Alenia, des fois à Cannes. Donc ces satellites sont amenés soit par bateau, soit par gros avions porteurs. Et donc ça décale toute la procédure de lancement.
Voilà. Il y a des pénalités prévues dans ce cas-là ou bien non? On subit un petit peu la météo, les aléas, quand on est client?
Quand on est client, alors après, ça, je ne le sais pas, mais il y a certainement, on va dire, des tractations, des marchandages, on va dire, des échanges, en souhaitant que ça soit le plus positif possible.
D'accord, voilà. Donc, les événements de Guyane n'ont pas impacté, j'allais dire, de manière violente le site, mais a eu des conséquences sur l'activité et sur ces deux lancements en particulier.
Les conséquences, ce sont des retards sur les lancements futurs, des retards sur les commerciaux, on va dire.
Alors, un mot maintenant sur le site lui-même. On a eu l'occasion de parler du site de Kourou, mais là, on voit bien qu'il y a des problèmes d'organisation, les problèmes de sécurité. Il y a combien de lancements par an
On va dire.
À court où?
Alors, en moyenne, c'est tous les mois, un mois et demi, deux mois. On va 8 par an. Des fois, ça peut monter à 10.
Hein, donc, entre 6 et 10, quoi.
Voilà.
Et entre 6 et 10 lancements.
Donc, c'est variable chaque année. Hein, oui. Que ce soit sur le site de Kourou ou sur tous les autres sites. Hein.
Oui, oui.
Alors, il y a les lancements. Si on prend, on va dire la Guyane, parce que la Guyane, ce n'est pas que Kourou. Kourou, c'est essentiellement Ariane et Vega.
Yes.
Et puis au nord, donc à Sinamari, c'est le Soyouz russe.
Soyouz russe, qui est à part. Donc, on rappelle que quand même les vols habités partent avec les capsules Soyouz. Hein.
Ah oui, mais uniquement du Kazakhstan, hein, pas de Kourou.
Voilà. Donc, c'est comme une activité essentiellement commerciale avec ces trois lanceurs, on a souvent évoqué ces trois lanceurs, c'est-à-dire dans l'ordre Vega,
oui,
Soyouz
Vega,
et Soyouz. Bien, sur l'aspect sécuritaire, qu'est-ce qui... on ne va pas rentrer bien entendu dans le secret défense, mais on voit bien qu'il y en a, et qu'il y a sans doute du carburant, enfin un certain nombre de...
Alors effectivement, donc au côté du centre spatial, le carburant est fabriqué sur place, il y a une entreprise française, bon on peut donner son nom, c'est l'Air Liquide, hein, qui fabrique donc tous les carburants, les kérosènes, l'hydrazine, des carburants excessifs, très toxiques, hein, ils sont fabriqués donc avec beaucoup de sécurité, voilà pour les propulseurs pour être lancés pour les fusées, notamment la poudre aussi, hein, puisque Ariane a des propulseurs à poudre. Voilà.
Bien, ben, nous ne manquerons pas de suivre l'évolution et le prochain départ 236 qui reste à venir, 237 et les autres, donc affaire à suivre. Voyons maintenant l'actualité des lancements. Il y en a eu peu, en fait. C'est eu peu d'activité, mais quand même, il y a eu une première, finalement, dans la conquête spatiale avec la fusée SpaceX, c'est bien ça.
Voilà, donc la fusée Falcon de la société privée SpaceX. Hein. Donc, on a récupéré le premier étage qui a servi deux fois. Donc, c'est une première.
Voilà, hein. Donc il y a eu des essais plusieurs, on a
plusieurs
évoqué
fois.
Ces...
Alors si on fait un peu l'historique de cette fusée, les premiers essais, ben, on faisait retomber sur une barge en mer, revenir sur Terre. Il y a eu des échecs, hein. Bon, au lieu de tomber sur la barge, c'est tombé dans l'eau. Il y a eu quelques petits crashs, mais là, donc SpaceX maîtrise de plus en plus sa technique de retour sur le premier étage. Et donc un des premiers étages a été réutilisé.
On a estimé l'économie de cette utilisation.
C'est en quelques millions de dollars, milliers de dollars, hein, milliers, millions. Donc, on n'a pas le chiffre exact. Hein.
Ouais, mais on voit bien que c'est un enjeu, un pari commercial.
C'est un enjeu, c'est un enjeu commercial.
Ouais.
Oui, énorme. Hein, donc, de pouvoir réutiliser. Et puis, à terme, de pouvoir réutiliser peut-être plus de choses. SpaceX voulait récupérer la coiffe de sa fusée. Alors, un petit échec, ils ont récupéré qu'une demi-coiffe puisque l'autre est tombée dans la mer. Mais vous voyez qu'on progresse à la récupération de ce qu'on lance. Mmh. Et tout ça nous interpelle aussi sur les débris spatiaux.
Oui, parce que on rappelait tout à l'heure que tous ces lanceurs n'étaient que des transports. Les sociétés sont des transporteurs. On imagine mal aujourd'hui un transporteur routier qui ne récupérerait pas son camion à chaque voyage.
Voilà.
Donc, effectivement, c'est un enjeu important. Le départ de ce SpaceX, c'était fin mars. Hein.
Voilà.
Fin mars. Et il a mis sur satellite quoi ? Sur
donc
orbite,
des satellites géostationnaires.
Voilà. Donc c'était des satellites, toujours pareil, plutôt pour les communications.
Télécommunications.
Bien. Il y a d'autres lancements importants,
alors,
peut-être ailleurs dans le monde.
Alors, on a surtout les lancements humains, puisqu'on entend donc le 20 avril, il y aura un départ de deux hommes pour la station spatiale. Voilà, donc il y a des lancements commerciaux, il y aura un lancement d'un cargo ravitailleur de la station spatiale Cygnus, hein, donc d'ici quelques jours.
Voilà.
Donc ravitaillement classique,
classique de
l'ISS.
De l'ISS, voilà, en matériel, voilà. Ravitaillement.
Et puis bon, pour l'instant, bien sûr, après il y a toujours les surprises. hein, notamment des lancements qui ne sont pas prévus. Je pense à la Chine,
oui.
Hein, qui ne communique pas forcément
non,
sur ces lancements.
Non, on n'entend pas grand-chose voilà, sur voilà. L'activité chinoise.
Voilà, donc après, on a toujours les lancements surprises. Et puis, bon, classique, donc là, il y a des tableaux de lancement qui sont prévus à travers donc, la Russie, les USA, le Japon. Donc, tous ces tableaux sont avec des dates prévues, mais toutes ces dates annoncées à l'avance ont toujours une possibilité de variation, comme on le disait tout à l'heure, avec les fenêtres de tir. Il faut que toutes les conditions soient réunies.
Bien, donc les lancements, c'est un petit peu timide ce mois-ci. Sans doute que les mois prochains, on va rattraper le retard et qu'on vous annoncera de nombreux autres lancements. Alors maintenant, Jean-Michel, nous emmenons à l'ISS, la Station Spatiale Internationale, donc la vie à bord. Nous rappelons effectivement que notre Français Thomas Pesquet est à bord actuellement, et puis aussi les projets à venir, que ce soit les rotations d'équipe, les nouvelles technologies. Dans un premier temps, Thomas Pesquet est sorti et ressorti dans l'espace.
Il a fait deux sorties, oui. Voilà. Donc il y aura une troisième sortie qui sera prévue en avril. Donc tout ça aussi, c'est lié à des facteurs de maintenance, de calendrier. Donc le calendrier des astronautes qui est très très précis, hein, ils l'ont sur leur ordinateur avec les plages horaires et tout ça peut varier en fonction de paramètres. Bon, j'imagine des paramètres qu'on ne maîtrise pas, par exemple quelque temps un débris spatial qui s'approchait de la station. Donc il faut faire varier l'altitude de la station et tout ça risque de décaler fortement donc le calendrier des astronautes.
Voilà, on mesure mal justement tout ce pilotage, hein, puisque il s'agit un peu de pilotage. Il y a un certain nombre de débris, d'objets, enfin bon, qui sont effectivement repérés, surveillés et donc qui appellent effectivement des corrections. C'est le travail du commandant de bord, ça ?
C'est surveiller du sol.
Du sol.
Du sol, oui. Donc le sol, surveille les débris spatiaux. Je peux vous donner un petit calendrier, là,
ouais.
Si vous voulez. Les débris spatiaux, si on prend un débris spatial de 100 kg d'un mètre carré, hein, s'il est à 288 km, on pense qu'il faut un mois pour qu'il retombe. S'il est à 379 km...
Là, c'est d'altitude. Hein.
D'altitude, ouais, voilà. Ouais. La hauteur de la station spatiale, vous voyez, à peu près, même débris spatial, il faut un an.
Oui, oui.
Et bon, plus on monte en altitude, plus le temps va durer. Il faut 10 ans après sur 800 km.
Donc en fait, voilà. Il faut imaginer la Terre comme un noyau atomique avec une multitude effectivement d'objets qui gravitent, qui tournent un peu dans tous les sens.
C'est tous ces objets qui sont en orbite basse, c'est-à-dire l'altitude de la station, 400 km, qui risquent de perturber la vie des astronautes.
Donc c'est un vrai slalom là finalement.
C'est un vrai slalom. Et comme on parlait des sorties extravéhiculaires, quand ils sont dehors avec leur scaphandre, ils sont très très à risque, hein,
ouais.
Parce que la combinaison, bon, c'est pas une armure de chevalier, mais il faut qu'elle soit assez rigide, mais assez souple, pour éviter les micrométéoriques,
oui,
le rayonnement solaire.
Il faut pas une grosse masse pour être très efficace en termes de destruction.
Oui.
Donc voilà, donc deuxième sortie, une troisième est en
prévue. Voilà.
Il a de la chance.
Par contre, il est resté à l'intérieur il y a quelques jours.
Oui.
Donc ses collègues Peggy Whitson et Shane Kimbrook sont sortis, oui. Et lui, donc, il a assuré la maintenance intérieure.
Alors, on a peu parlé de Peggy Whitson. Donc
oui.
Parité oblige d'ailleurs. Peggy Whitson, elle est en train de nous battre des records finalement.
Donc elle a dépassé 500 jours dans l'espace avec 3 missions à son actif. Elle devient la première femme à rentrer dans un club exclusif où seulement 20 humains avoir dépassé ces 16,5 mois dans l'espace.
Quelle formation a-t-elle à l'origine?
Alors, elle est née, donc on va faire un petit peu son CV,
ouais,
si vous voulez.
Biographie, oui.
Elle est née dans une ferme dans l'état du Iowa. Donc à 9 ans, elle voit les images des astronautes d'Apollo 11. Et là, elle est émerveillée et elle fait comme beaucoup d'enfants, elle se dit c'est ça que je veux faire.
Ah oui, du rêve à la réalité.
Voilà, c'est ça que je vais faire. Et c'est ça
le parcours est difficile, mais certains y arrivent.
Voilà, donc elle a décroché un doctorat en biochimie à l'université de Rice en 1985 et elle sera finalement sélectionnée en 1996 pour l'entraînement d'astronaute.
Ouais, donc c'est un bon cobaye parce que la durée...
Alors elle brise souvent les barrières de l'âge et de la diversité.
Ah oui, oui.
Voilà. Donc elle est encore dans la station spatiale.
Elle est dans la station spatiale et elle a fait une sortie.
Elle a fait une sortie.
Et c'était la première fois où elle était
déjà sortie. Ah non, elle a fait plusieurs sorties dans l'espace.
Hein. Très bien. Oui. Bah,
donc c'est vraiment une personne, on va dire, jeune, bien, 57 ans, puisqu'elle est née en 1960, donc qui a énormément d'expérience au niveau du spatial. Avec une autre femme, donc on parle souvent aux États-Unis, c'est Sunita Williams. Hein, ces deux femmes, dans le corps des astronautes, ont une place tout à fait particulière.
Bien, elles défendent brillamment la condition féminine. Alors nous, on peut qu'espérer de les rencontrer un jour, prochainement, à la Cité des sciences à Toulouse ou à Paris.
Alors, Cité de l'espace.
Ou peut-être en Haute-Loire.
Oui. Alors, donc, on rappelle qu'il y aura le congrès mondial des astronautes en octobre à Toulouse. Est-ce que Peggy Whitson fera partie du voyage? Il y a 6 astronautes américains qui sont proposés. Donc, est-ce que parmi les 6, il y aura des femmes? On l'espère.
Eh bien, Thomas Pesquet devient l'idole des jeunes, des scolaires en particulier. Il y a une grosse activité des écoles autour de ce vol de Thomas Pesquet. Sur les scolaires, donc, ça continue finalement.
Alors, beaucoup de contacts avec les écoles françaises, hein, surtout. Donc, il y en
alors,
a eu.
Alors, quelles écoles on peut... Il y a des écoles de Haute-Loire, là?
Non, il n'y a pas d'école de Haute-Loire.
Pas cette fois-ci.
Non, hein, à moins qu'il en soit prévu, mais bon, je ne les ai pas vus sur le calendrier.
Pas, hein,
et puis, bon, je pense que s'il y en avait de Haute-Loire, on le saurait.
Ouais, donc, hein. En France, qu'est-ce qu'on a
voilà. Alors en France, il y a eu beaucoup de contacts, mais je vais vous donner les prochains hein, qui sont prévus. Donc, alors là aussi, on a des fenêtres hein, qui sont annoncées, qui sont prévues par la NASA, puisque voilà. ce dossier est contrôlé notamment par la NASA.
L'accès aux scolaires, voilà. Le rendu à connaissance, voilà, il faut faire prévu aussi les jeunes.
Un dossier qui est très très long à monter, mais vous voyez, il y a le collège Roger Martin Dugard à Belen dans l'Orne. Hein, donc dans l'Orne, ça va penser que c'est pas loin de l'origine de Thomas Pesquet, donc il sera tout particulièrement attaché.
Un peu de chauvinisme,
voilà.
Aussi.
Et c'est prévu entre du 10 au 16 avril. Ensuite, on a entre le 24 et le 30 avril, il y a le lycée Hélène Boucher à Thionville.
Oui.
Et le 1er au 7 mai, on a le collège René Cassini à Lillier, donc c'est dans le Pas-de-Calais. Voilà, donc quelques écoles parmi celles qui ont postulé, celles qui seront retenues.
Voilà, hein. Donc on rappelle à tous nos enseignants et à tous nos animateurs de jeunes que voilà. C'est une possibilité que vous pouvez saisir.
Avec un long
avec
dossier.
Avec un long dossier à monter, voilà. Mais la preuve, on y arrive.
La preuve, on y arrive. Voilà. Je pense qu'il y a des écoles qui ont bien anticipé. Ouais. Alors, il y a deux façons de procéder. Là, il y aura des contacts directs quand la station spatiale va passer au-dessus de la France. Mais aussi, on peut avoir des contacts lorsque la station est en Australie. Et là, ça se fait avec une procédure qu'on appelle le télébridge.
Voilà. Alors, chez les scolaires, il y a aussi un événement là, qui se prépare. C'est
qui a été fait.
Qui a été fait, pardon. Oui. Oui, le congrès scientifique des enfants, pardon.
Alors, tout à fait. C'était la semaine dernière. Donc, nous avions 4 astronautes. Jean-Jacques Favier qui était à Strasbourg. Claudie Nieré qui était à la Cité des sciences à Paris. Michel Tonini qui était donc à Vouhamblin. Et Philippe Perrin qui était à la Cité de l'espace à Toulouse.
Donc, l'objectif là, c'est
l'objectif, c'était de rencontrer des écoles, notamment des CM1 et CM2. Des écoles qui avaient participé à un travail et qui se sont rendues sur ces 4 lieux et où il y avait 4 astronautes présents et qui ont pu dialoguer donc pendant une heure. Et tout cela a été retransmis en direct où les jeunes ont pu poser des questions sur la vie dans l'espace. Et il était prévu notamment un contact avec Thomas Pesquet qui n'a pas eu lieu. Tout simplement, la raison, elle est toute simple, qu'il y avait une sortie extravéhiculaire, puisque Shane Coombrough et Peggy Whitson étaient à l'extérieur.
Et que ça, ça passait pas comme souvent.
Thomas Pesquet était derrière la cupola avec...
absence de réseau.
Les ordinateurs à surveiller ses collègues à l'extérieur.
En tout cas, on ne peut que se réjouir effectivement de cette dynamique auprès des scolaires, auprès des jeunes, parce qu'en fait, c'est un petit peu comme nous, de manière plus importante, la volonté de vulgariser, de rapprocher ce monde des sciences, de l'aventure de nos jeunes. Donc, bravo et merci encore à la NASA et à Thomas Pesquet qui s'y prête très très bien. Un mot maintenant, Jean-Michel, sur les rotations d'équipage. On a déjà évoqué ce départ de trois astronautes qui en plaçaient trois, etc. Les uns montaient, les autres partaient, etc. Ça bouge un peu dans ce domaine-là.
Ça continue, hein, on va dire, puisque le 10 avril, date prévue, trois astronautes vont redescendre. Donc Andrei Borisenko, Robert Kimbrook et Sergei Ritsikov. Donc Kimbrook, hein, qui a fait sa sortie extravéhiculaire la semaine dernière.
Ouais.
Donc non seulement il va rentrer dans l'ISS, mais il va rentrer définitivement
à la
maison.
Il va rentrer définitivement à la maison. Donc alors le 10, c'est le 10 avril, voilà. Et le prochain départ.
Alors le 20 avril, donc de Baïkonour, puisque comme on l'a souvent répété, on n'a qu'un seul vaisseau qui permet d'accéder à la station spatiale, c'est le Soyouz russe.
Il a trois places.
Il a trois places, mais là, effectivement, il y aura juste Jacques Fischer et le russe Fyodor Yoshikin qui vont partir tous les deux avec un siège libre. Tout ça parce que du côté russe, on a décidé de faire des économies.
Ah.
Alors, ce siège est libre. Pour l'instant, pas de milliardaires se sont manifestés pour le prendre. Et puis, la préparation était un petit peu courte. Mais qu'est-ce qui va se passer à l'avenir? Ça va bousculer un petit peu la rotation des équipages.
Mm-hmm.
Donc, les Américains ou d'autres nations, ça peut être l'Europe, ça peut être
Japon.
Le Japon, l'Italie, enfin, l'Italie, c'est l'Europe. Voilà. Donc, financer ce siège libre, soit l'offrir éventuellement, comme on vient de le dire, à un milliardaire ou une personne fortunée qui sont sentés par l'espace, ça a déjà été fait, mais ça risque de bousculer...
Et alors, le départ de Thomas Pesquet serait impacté par ce retard?
Alors, j'ai envie de dire, pour l'instant, ça a été évoqué, hein, puisque son retour est prévu officiellement le 2 juin, mais il n'est pas exclu que ça puisse décaler le retour.
Qu'il fasse un petit peu de rab.
Voilà, tout à fait.
Qu'il fasse un petit peu de rab.
Ce qui serait pour son plus grand plaisir.
Ouais, on s'en doute. Alors, il y a aussi du nouveau dans les... Il y a des projets sur les futurs véhicules devant desservir l'ISS dans...
Alors pour l'instant, comme on vient de dire, comment on va sur l'ISS, comment on en revient? C'est simplement le Soyouz russe, donc qui permet de monter trois personnes. Ou deux. Voilà.
Alors, donc on rappelle qu'il y a les hommes, effectivement. Il y a aussi le problème de maintenance, les études scientifiques, enfin, tout le matériel nécessaire, le carburant, la
nourriture. Alors tout ça se fait par des cargos ravitailleurs.
Voilà.
Donc il y a le Soyouz ravitailleur, hein, qui est différent de celui des hommes. Il y a la capsule de SpaceX. Hein,
alors ça, c'est prévu pour... ah oui,
SpaceX,
côté maintenance.
Maintenant, SpaceX, le Cygnus, l'HTV japonais. Donc ça, c'est tout ce qui est en cours au niveau maintenance. Alors pour l'humain, pour la suite.
Voilà. Complémentairement au Soyouz ou pour remplacer Soyouz un jour, je ne sais pas.
De toute façon, il faut qu'à terme,
côté
des Américains, il y ait un vaisseau spatial humain pour aller dans l'espace.
Voilà, tout à fait. Alors là, on voit effectivement SpaceX qui se positionne puisqu'il travaille sur un projet. C'est la capsule Dragon, c'est ça?
C'est la capsule Dragon, hein, la capsule Dragon de SpaceX qui est prévue avec retour par parachute. Donc on revient un peu du temps des missions Apollo. Donc ça avance beaucoup. On parle de 2018, voire à certains les plus pessimistes disent 2019. Pour l'instant, on n'a pas de date précise. Hein. C'est ce que les firmes annoncent. Et alors, comme toujours dans le spatial, on annonce puis on peut avoir des surprises, comme dans tous les domaines.
Hein. On reste quand même dans l'aventure.
Voilà.
Même si on est grandement dans le commercial avec
parce qu'actuellement, les Américains ont perdu toute l'histoire d'Apollo. Hein. Refaire Apollo, on ne peut pas. Alors, la NASA,
faut faire autre chose.
En tant que NASA, elle travaille sur le SLS avec la capsule Orion, mais ça coûterait trop cher pour amener des gens sur l'ISS. C'est plutôt des projets pour un retour lunaire.
Voilà, donc SpaceX, argent privé, qui travaille sur une capsule Dragon, oui, qui prévoit effectivement, qui prépare de futurs vols habités, notamment en direction de l'ISS, bien sûr. Et puis, il y a aussi Boeing qui
alors, Boeing
se positionne.
Avec les CST-100, hein, c'est le nom de sa capsule. Alors, retour avec parachute et airbag. Hein, donc, les essais sont en cours. Alors, le CST-100, qu'on appelle aussi le Starliner, pour aller voyager dans les étoiles.
Ah, le Starliner, bien sûr. Eh bien, écoutez, merci Jean-Michel d'abord. Et puis, c'est une actualité effectivement mouvementée. On voit que Kourou est un petit peu bousculé, mais finalement, l'histoire continue.
L'histoire continue à l'avance beaucoup. Parce que même si on peut avoir des petits retards comme ça, au niveau des sous-traitants, ça travaille énormément pour le spatial.
Voilà, et souhaitons effectivement que Kourou et la conquête spatiale contribuent à résoudre, j'allais dire de manière positive, les problèmes rencontrés par nos amis français de Guyane. Voilà. Eh bien, écoutez, à une prochaine fois. Orion Chemin de l'Espace vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée.
Voilà, et puis on se retrouve le mois prochain.
5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain. Décollage.